Ce qui veut dire que, dans la traversée du règne humain, l'être va d'abord édifier son corps physique. Et ce corps physique est relié au centre sacré. Alors, je simplifie pour pas prendre trop de temps sur tel ou tel aspect de la présentation. Bien évidemment, dans le dossier, vous retrouverez plus en détail les parties techniques. Il n'en reste pas moins qu'à l'époque de la Lémurie, troisième race racine, il fallait édifier le corps physique. Et l'épanouissement concernait deux centres, le centre basal, coccygien, et le centre sacré. À l'époque de l'Atlantide, il a fallu édifier le corps astral, et par conséquent, le plexus solaire est entré en fonction. À notre époque, la race aryenne, cinquième race, il faut édifier le corps mental et par conséquent, c'est le centre basal qui s'épanouit. Tout cela nous donne un triangle et là apparaît une notion fondamentale dans la manifestation des centres, c'est que les centres, après s'être épanouis les uns après les autres, fonctionnent en liaison triangulaire. Ce qui veut dire que quand le centre basal, le centre sacré, le plexus solaire fonctionne, au fur et à mesure que cet échange triangulaire commence à s'équilibrer et donc à devenir équilatéral, vous avez la personnalité qui est édifiée. Alors ceci est très important dans l'évolution de l'être humain parce que l'âme peut enfin regarder ces trois mondes de manifestation comme étant en phase de coordination. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez que nombre de personnes sont en personnalité réalisée et par conséquent, les trois centres inférieurs fonctionnent en coordination. Et tout ça grâce aux sens liés à chaque corps, il y a une perception quintuple des sens sur chaque plan, ce qui permet de saisir les aspects d'un monde environnant.
Si ce n'est pas équilatéral, ça signifie
que la personne n'est pas encore bien équilibrée en personnalité. Alors ça va, par exemple, vous prenez l'homme qui est encore, on va dire, grégaire, et bien il n'a encore que son centre sacré qui est dominant, hein, et donc si vous voulez, dans le schéma d'échange des centres, et bien le centre sacré est dominant. En ouverture, il est dominant, alors que le mental va être, lui, encore étroit. Mais en fait, pour que l'être ait une approche, une pénétration, une saisie, une intelligence de ces mondes qui l'environnent, il faut qu'il y ait la structure équilatérale des trois corps. Voilà. Ce qui nous amène à une personnalité pleinement épanouie. Mais il faut considérer ce qu'on appelle les trois corps, la personnalité, comme étant notre non-soi, c'est-à-dire les chantiers de vie mineure qu'on a en charge. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous avons en charge des vies mineures. Le jour où la conscience collective de l'humanité va appréhender, voire intégrer cette notion-là, vous imaginez le changement de regard sur la vie ? Nous avons en charge des vies mineures qui se traduisent par nos appétits physiques, nos pulsions et passions émotionnelles et nos schémas, nos formes pensées mentales, mais qu'on a intégrées par nos parcours précédents de vie. Hein, on reprend notre chantier où on l'a laissé et bien évidemment, toutes ces vies mineures, eh bien, elles nous ont emprisonnés. C'est-à-dire que nous fonctionnons à partir de réactions, d'habitudes de ces vies mineures. Et c'est là où, dans les 12 secondes, il y a l'arbitrage.
C'est ce que j'avais demandé. Si on fonctionne suivant nos vies mineures, c'est comme si on n'avait pas de libre arbitre, on est influencé.
Oui, ben, on est prisonnier. Pourquoi 12 secondes ? Parce que l'être que nous sommes, l'âme, en réalité, en tant qu'être, nous avons 12 secondes. Alors c'est comment ? On a notre population de vies mineures qui, devant une situation donnée, monte au créneau. Chez nous, on a l'habitude de faire comme ça. Et puis, ben, l'être au centre, ben, il est prisonnier s'il dit rien. Donc il réagit comme il a l'habitude de le faire. Alors que s'il dit non, parce que ça ne relève pas du vrai, ça ne relève pas du beau, ça ne relève pas du bien de l'ensemble, eh bien, voilà. Ce qui veut dire, si vous voulez, que dans un processus de progression, quand la personnalité est maintenant en bon fonctionnement interne, eh bien l'être intérieur va dire, oui mais attention, moi là-dedans, je suis mené par le bout du nez. Je suis en train de réaliser que quand je me laisse aller à de la gourmandise ou à des pulsions, j'ai des incidences sur mon corps physique. Quand je m'agite émotionnellement, je suis complètement perdu, déstabilisé, angoissé, j'ai des peurs. Et mentalement, c'est pareil, au sens où il va jouer le mouton de panurge en disant, moi je réagis comme tout le monde. Et puis tout ça va progresser, puis un jour vous aurez ce qu'on appelle les gens dits bien-pensants, mais qui sont en séparativité. Et par conséquent, l'être intérieur, à un moment donné, va dire « ça suffit ». Donc, maintenant que je vois quand même la situation, d'abord de mon corps physique, j'effectue une non-dépendance.
C'est une prise de conscience et une volonté.
C'est une prise... mais vous le voyez bien d'ailleurs dans la dépendance, À tout point de vue, la dépendance, il faut de la volonté. Si vous êtes alcoolique, et tant que vous n'aurez pas la volonté. Quand la personnalité est bien épanouie, au premier stade, l'être réalise qu'il est dépendant. Donc il dit, il faut que j'atteigne la non-dépendance de mon corps physique, la non-dépendance de mes pulsions émotionnelles, de mes vies mineures émotionnelles, et la non-dépendance à des formes pensées collectives de panurge. Alors après, il dit, j'ai 12 secondes... Donc à partir de la transmutation qu'il aura effectuée, qui va le libérer, il va effectuer une transformation. C'est-à-dire, il va dire, non, ma nature en tant qu'être s'appelle beauté. Et par conséquent, maintenant, je ne vais utiliser que de justes relations équilibrées, et par conséquent, je réalise qu'il faut être vrai, il faut être en beauté de relations et le bien de l'ensemble. Autrement, je suis en séparativité, donc je suis avec des peurs. Alors... On continue les concordances, parce que je les avais laissées un peu de côté. Alors, notons que lorsqu'un être n'est encore qu'en personnalité, sa puissance énergétique est de 10. Quand il est en libération de son être, donc sous la conduite de son être permanent, de son âme, sa puissance énergétique est de 100. Et quand il est en conscience de sa réalité de vie, donc relié à ce qu'on appelle le père, la monade, il est en puissance 1000. Ce qui veut dire que dès l'instant où l'être du cinquième règne, qu'est-ce que l'être du cinquième règne? C'est l'être qui est en conscience d'être. En conscience d'être, il est 10 fois plus puissant en rayonnement qu'un être humain. On reprend le tableau pour finir. Vous avez l'indication naturelle des liens avec Manas, le mental supérieur. Manas, c'est le mental supérieur. Bouddhique. C'est lié au centre cardiaque. Plexus solaire, c'est l'astral. Le sacré, c'est le plan éthérique. Donc c'est lié au plan physique éthérique. Et le centre coccygien ou basal, c'est le mental concret.
L'ajna, c'est monadique ?
Non. L'ajna, c'est la personnalité intégrée. La monade, son siège définitif, c'est le basal. Parce qu'il sera lune-soleil. Et que, comme il a été évoqué, mais pourquoi la mer? Parce que là, c'est la mer. Comprenons bien, la finalité de l'être, je pense l'avoir déjà évoqué dans les cours précédents, dans ce deuxième système solaire, le dessin du logos solaire, qui est une partie du dessin du logos cosmique, c'est de pouvoir dire, moi, Dieu, je suis matière. Ce qui veut dire, si vous voulez, que les termes esprit-matière ne sont des termes que pour le mental-intellect. Ce qui importe, en fait, à la grande vie cosmique, c'est de pouvoir rejoindre le plus bas de sa manifestation. En d'autres termes, lorsqu'un être sur le plan terrestre peut dire et prétendre, à juste titre, le dire, « Moi, Dieu, je suis matière », il est au rendez-vous du dessein du logos cosmique. Ce qui veut dire, si vous voulez, en d'autres termes, le père et la mère, les deux pôles de la vie, sont unis. Je rappelle les caractéristiques. La mère est pureté, le père est perfection et le fils est puissance. Mais comme chacun est une triplicité, vous ne pouvez distinguer l'un des aspects de l'autre. En fait, dans la réalité, le père est puissance. Mais le Père en manifestation est le Fils. Ce qui veut dire que le Fils grandira en puissance du Père en conjuguant pureté et perfection. Alors retenons que dans les structures énergétiques, il y a des circulations propres à chaque aspect. Vous avez, je pense, le tableau avec la structure de manifestation des différents centres sur les différents plans. Le lotus égoïque et les centres. Alors, tout ça pour vous dire que le circuit lié à la mère passe par les atomes permanents. Le circuit lié au fils passe par les pétales. Le circuit lié au père passe par les centres. C'est pour vous faire apparaître que l'énergie, en fait, a des circuits qui lui sont bien définis. Tant que vous n'utilisez pas une démarche saine de conscience, eh bien les pétales ne se développent pas d'une façon saine. Quand une personnalité est équilibrée, il y a structure, échange triangulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus de réalisation, vous allez avoir une période où l'être a à se discipliner et par conséquent, les centres ne vont pas être stables. Le plexus solaire est la chambre de compensation des trois inférieurs. Mais si l'être n'arrive pas à bien gérer le passage de l'égocentrisme à l'unité de groupe qui est liée à la conscience du cœur, bouddhique, il va y avoir de l'énergie polluée qui va remonter. Ce qui veut dire que dans la vie de l'intéressé, qui va être placé dans un contexte relationnel de groupe, ce qui va donner des personnes en charge d'autres, donc des responsables d'atelier, des cadres, des chefs d'entreprise, eh bien, s'ils fonctionnent en égocentrisme et non pas en unité de groupe équilibrée, vous avez des remontées de pollution sur le centre cardiaque et vous avez là l'explication classique des crises cardiaques. Quand vous avez un chef d'entreprise, hein, je vais simplifier, mais qui dit en lui-même, je l'ai fait bosser pour mon profit intérieur et tout, alors qu'en fait, il est en responsabilité, mais vous voyez le dégât, hein, eh bien, il y a des pollutions qui remontent, le centre cardiaque subit ces pollutions en tant qu'échange, et ça a une incidence sur le cœur. Et là, vous aurez ce qu'on appelle les maladies liées au disciplina, c'est-à-dire aux êtres qui se disciplinent aux lois de la vie.
Et ce chef d'entreprise, s'il n'a pas conscience...
Ah ben, c'est rien, il le fera dans une autre vie.
Oui, non, mais est-ce qu'il va quand même avoir sa crise cardiaque?
Ah, pas forcément, ça dépend. Ça dépend de la pollution qu'il génère.
Ça dépend de la conscience ou de la pollution? Ben, les deux. Il y a beaucoup de pollution, mais pas de conscience, il n'a pas de crise cardiaque.
Non. Non, il n'y a pas de responsabilité tant qu'il n'y a pas de conscience. Le cas le plus général sur Terre, si vous voulez, c'est la différence de situation d'être entre l'oriental et l'occidental. L'oriental, dans sa conscience collective, la loi de renaissance est acquise. La loi de karma est acquise. Je suis éternel, je verrai dans la vie suivante. D'où l'épuisement des corps énergétiques des orientaux. C'est pour ça qu'ils ont besoin de faire du yoga, de l'hatha yoga, des exercices respiratoires, parce qu'ils ont les conséquences de leur conscience négligée. L'occidental, qui pour l'instant n'a pas intégré cette notion, est protégé. Il n'est pas conscient.
Les occidentaux, maintenant, font du yoga.
Parce qu'ils s'éveillent. Parce qu'ils s'éveillent. Mais ils n'en sont pas encore à des consciences qui courent depuis des milliers d'années. Il commence à plaisanter avec... dans une autre vie. Il commence à plaisanter, hein. Attention, hein, ça rentre dans la conscience collective. Hein. J'ai dû faire ça dans une autre vie, mais c'est une boutade. Hein. Mais ça vient.
Il ne peut pas y avoir des choses comme ça, difficiles, qui sont purement didactiques, c'est-à-dire l'être n'est pas conscient, c'est justement par une épreuve difficile qui va lui faire prendre conscience. Pourquoi? Sans qu'il le lâche a priori.
Oui, parce que ça va l'interroger. Il va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi... Alors... Il faut comprendre que dans le processus de circulation, puisqu'en fait l'être a, en tant que fils, unir les deux pôles de la vie, esprit-matière. En vous rappelant que la matière, ce n'est que des vies plus jeunes sorties de l'absolu. Elles sont donc pauvres en capacité de conscience, mais encore riches en divinité. Est-ce que vous voyez bien la nuance? Mais il lui faut acquérir l'épanouissement de conscience. Eh bien, dans ce processus, l'être humain, plutôt la vie totale humain, va avoir à effectuer l'ascension de la matière au ciel et la descente du ciel sur la terre. Alors, vous allez avoir des jonctions qui vont se faire, et bien évidemment, les trois centres de la personnalité doivent rejoindre les énergies qui viennent des trois centres, des trois corps subtils, c'est-à-dire atmique, bouddhique, manasique. Le cardiaque est lié au plexus solaire, le centre sacré est lié au centre de la gorge, le centre basal est lié au centre de la tête. Le centre ajna, lui, c'est le centre qui accueille la personnalité réalisée et il devient le centre émetteur de la création, de la pensée créatrice. Bon, vous aurez tout ça développé si vous prenez le dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces centres vont d'abord tourner sur trois dimensions, ils passeront sur quatre, ils passeront sur cinq. Hein, c'est donc imaginez en fait les tourbillons de champ de force que ça peut représenter.
Et dans quel sens la flèche va ? Ça monte ou ça descend ?
Ça dépend comment on lit. Il y a des fois ça va monter, des fois ça va descendre.
Parce que parfois on dit on doit monter.
La transmutation, c'est la phase difficile où il va y avoir.
On transforme.
Bah oui, parce que qu'est-ce qu'un pétale ? Je vous ai expliqué que la ligne du fils, c'était les pétales. Un pétale, c'est une énergie qui monte, une énergie qui descend. Ce qui veut dire que, en fait, quand l'être qui, dans sa fonction, doit fournir l'essence, celui qui me dit qu'il a fait une faute d'orthographe, que j'ai fait une faute d'orthographe, lui tire les oreilles.
L'essence.
Nous avons tous à amener les vies mineures qui sont les nôtres au point de départ qui était le nôtre. Et le Père fait pareil vis-à-vis de nous. Imaginez les chantiers de ces grandes vies qui ont en charge, rien que le gosse planétaire, hein, quelques milliards d'individus comme nous. Hein. Bon, eh bien, la conscience, c'est une essence et donc une invocation, une évocation. Si je veux replacer ça dans l'art de la méditation. En fait, nos vies mineures, devant telle ou telle situation, elles traduisent en conscience nos habitudes. Eh bien, nous avons 12 secondes pour clarifier nos étudiants. Jusqu'au jour où, si vous voulez, nous n'aurons plus d'éléments de vie mineure pauvres, lourds et denses. Mais on a toujours, si vous voulez, dans le schéma, on a toujours nos vies mineures qui répondent. Alors, bien évidemment, est-ce qu'il y a de la pollution dans les sens qui transmettent ? À partir de là, l'être que nous sommes dit, mais moi, attends, là, je peux aller plus loin, plus haut. Vous voyez bien le schéma ?
Oui, mais à force de les contrarier, elles ne doivent pas être contentes. Hein.
Ben, c'est pour ça qu'elles résistent. Et c'est pour ça que c'est le chemin le plus difficile, parce que tu les as adorées, tu les as fait rentrer dans ton club de lutins, bon, tous ces petits lutins, voilà, tes habitudes. Et puis à partir de là, un jour tu réalises qu'en fait, ils t'ont fait prisonnier. Tu dis, ça va bien. Attends, le chantier, il faut le clarifier. Donc, essayez de comprendre, dans nos habitudes au quotidien, la réponse à une situation vient d'abord de nos lunaires. Et on a 12 secondes pour mesurer si on est en juste relation et si on peut dépasser, c'est-à-dire tendre l'autre joue.
Mais 12 secondes, c'est pas beaucoup, hein.
Si, c'est énorme. Alors, pour vous donner une idée de comparaison, eh bien, la respiration énergétique du Père, c'est 24 heures de l'homme céleste. La respiration du Logos planétaire, c'est une année. La respiration du Logos solaire, c'est 11 ans. C'est pour ça, si vous voulez, que les scientifiques se sont aperçus que tous les 11 ans, il y avait du bouillonnement énergétique autour du Soleil. C'est pour montrer la puissance de l'évolution de la vie. Alors, on parlait tout à l'heure, pour voir justement les dissonances qui peuvent se poser, eh bien, on parlait du centre cardiaque au niveau de la difficulté que l'être a assumé, que ce qui l'attend, c'est-à-dire de pratiquer de justes relations. Mais vous pouvez avoir, par exemple, d'autres problèmes. Vous avez des êtres qui en sont dans ce même stade-là, mais qui ne supportent pas d'être contrariés ou ne supportent pas que ce qu'ils attendent ne soit pas assumé. Et là, vous avez l'explication de la migraine. Il y a le feu dans le cerveau. Pour vous montrer que vous avez des dissonances qui ont des effets sur le corps dense. À chaque centre correspond une glande dans le corps physique dense. Alors, au centre basal correspond les surrénales.
Au centre sacré correspond les gonades, donc les organes sexuels. Au centre plexus solaire, vous avez le pancréas. Au centre de la gorge, vous avez la carotide. Au centre du cœur, vous avez le thymus.
Voilà, vous avez les concordances et thyroïde et au centre de la tête, au niveau du centre ajna, c'est la pituitaire, l'hypophyse et l'hypophyse ou pinéale pour le centre de la tête. Il faut savoir que les centres ont leur concordance dans la tête, ce qui veut dire que vous aurez les sept centres énergétiques en concordance dans la tête. Entre chaque centre, vous avez une membrane. Il faut savoir que ces membranes ou se brûlent ou se dissolvent. Si vous pratiquez de la respiration énergétique, donc vous faites circuler le feu, et que ça ne s'accompagne pas de réalisation spirituelle, eh bien vous brûlez les membranes. Et cela présente un danger très important, à savoir qu'il faudra, dans les vies suivantes, reconstituer les membranes. Mais à chaque fois qu'un être progresse en réalisation spirituelle, donc vous voyez, quand l'être fait son boulot, les membranes se dissolvent naturellement. On avait évoqué les différents yogas, eh bien, sachez que ça s'accompagne de la même façon.
Si vous avez quelques minutes, les différents yogas, vous pouvez résumer. Après, c'est ce que j'en fais.
Oui, je suppose que vous êtes en démarche spirituelle.
Oui, c'est le début.
Les exercices respiratoires physiques, c'est l'Hatha Yoga. L'Aya Yoga, c'est quand on fait circuler l'énergie dans les centres. Ensuite, vous avez le Bhakti Yoga, qui est lié au corps astral. Yoga voulant dire union. Hein. Le Raja Yoga, c'est le yoga du mental, de l'âme. Puis vous avez l'Agni Yoga, qui est lié au bouddhique. Et le yoga de synthèse qui est lié à l'atmique. Et puis ensuite, vous avez au niveau de la monade, le dharma yoga. Chaque yoga qui est supérieur aux autres entraîne automatiquement l'alignement des corps inférieurs. Et qu'il est un peu dommage que par attirance, peut-être liée aux vies anciennes de l'Orient et notamment de l'Inde, les disciples en Occident adoptent les méthodes orientales. Lorsqu'un être a une démarche spirituelle, spirituelle est liée à l'énergie d'amour, divin est lié à l'énergie de la volonté divine, eh bien, il y a automatiquement synchronisation avec les yogas en dessous. Ce qui veut dire que, en fait, pourquoi se fatiguer alors que ça se fait, on ne peut plus naturellement.
Ça se fait tout seul.
Voilà. On prend simplement le risque de brûler des membranes. Et ça peut aller jusqu'à la folie. Hein. Parce que vous faites circuler des forces inférieures et vous n'avez pas la compensation supérieure. Vous voyez bien le problème ? Voilà, mais c'est pour comprendre que, en fait, notre corps dense, lui, c'est le dépotoir de nos corps subtils. Et que la maladie est liée au corps subtil. Mal à dit. Alors nous avons vu que, 1, les centres sont tous à l'envers et se retournent, sauf le centre de la tête qui lui reste à l'envers, et nous avons vu qu'ensuite ces centres fonctionnent en échange triangulaire. Retenons que le centre basal va synthétiser les centres et le centre de la tête synthétise les sept rayons. En fait, voyez-vous, ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'aspect lune est de même importance que l'aspect soleil, donc père-mère. Le fils disparaît quand il a uni le sacré. Il devient le père-mère. Et bien évidemment, il va être libéré de l'obligation de son contrat de vie. Mais ça ne veut pas dire, souvenez-vous, qu'il ne tourne pas symboliquement le dos à la maison du père pour servir le chantier planétaire qui n'est pas terminé. Nos centres énergétiques sont reliés aux centres planétaires. Nous allons donc évoquer les centres planétaires. Au niveau centre de la tête planétaire, c'est Shambhala, à ce qui est appelé la maison du Père ou Shambhala. Si vous voulez le situer plus précisément sur un plan géographique, désert de Gobi. Mais en éthérique. Hein. C'est-à-dire que si un jour, dans vos voyages, vous survolez en avion, le désert de Gobi, observez le hublot, il se peut que vous voyez une lumière extrêmement intense et selon votre capacité de vision énergétique éthérique, vous apercevrez une cité céleste. C'est assez fréquent pour les voyageurs qui passent au-dessus du désert de Gobi.
Et c'est dans quel axe pour aller
la Chine, hein, la Chine, la Mongolie.
Nord,
la
Chine.
Ouais. Ça dépend par où vous passez, hein, si c'est par le pôle ou par... Bien, le centre de la tête, Sambhala. Le centre du cœur, la hiérarchie des âmes, donc le cinquième règne, et une partie du sixième. Le centre de la gorge, l'humanité. Le centre du plexus solaire, le règne végétal. Le centre basal, le minéral. Le centre sacré, les devas, les êtres énergie, connus dans l'enfance comme étant les gnomes, les lutins, les elfes, les syphiles, les anges, les archanges. Tout ce qui est le monde de l'énergie. Je vous rappelle, un être énergie, le monde de l'énergie, hein, vous avez dans la manifestation de la vie, les centres d'énergie et l'énergie. Les êtres énergie ont une racine de vie. Ils ont un niveau de conscience, simplement leur forme, c'est un souffle d'énergie, plus ou moins grand. Avec la pépinière lunaire, qui est le monde des ions, des électrons et des atomes. Mais un être énergie a un niveau de conscience. Et cette évolution est parallèle au monde du minéral, du végétal, de l'animal, qui sont les centres d'énergie, ainsi de suite. Bon, donc centre sacré, les devas, un terme oriental pour désigner le monde des êtres énergie. Alors, nous nous trouvons avec le problème suivant. Le centre de la gorge appartient normalement au monde animal. Oui, mais je l'ai dit exprès. Le centre lié à notre humanité dans ce cycle d'évolution est le centre Ajna. Mais ça implique que les personnalités humaines soient clarifiées. Ce qui veut dire que le règne humain bloque actuellement l'évolution du règne animal. Ce qui veut dire que quand vous prenez les animaux domestiques, eh bien, beaucoup, en fait, sont obligés de patienter parce que le règne humain leur bloque le centre de la gorge planétaire.
Même si on aime son animal ?
Ah, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'humanité en tant qu'entité planétaire qui est concernée. C'est pas tel ou tel
individu. Par rapport à tous les animaux.
C'est oui, c'est là. Nous sommes dans une entité énergétique qui s'appelle l'humanité. Et on en est dépendant. Alors, bien évidemment, dans cette humanité, vous avez des êtres qui appartiennent à la hiérarchie des âmes, le cinquième règne. Vous avez des êtres peu nombreux, mais qui appartiennent maintenant à Sambhala, la maison du Père, qui sont à la fois de cet niveau de conscience, de niveau de conscience de la hiérarchie des âmes, et ils sont dans l'humanité. C'est beaucoup, je dirais, interpellant et intéressant, parce que ça veut dire que les trois centres majeurs sont en train de se coordonner. Il y a un triangle qui se fait entre les trois centres majeurs planétaires.
En ce moment-là ?
Ah oui. L'humanité a perdu ses guides dans son temps. Le maître des guides est venu il y a 2000 ans en disant « Pratiquez de justes relations pour que je puisse revenir avec mes frères les guides ». Ça voulait dire, eh bien, on va effectuer un rapprochement qui va être les prémices de la fusion de l'humanité avec la hiérarchie des âmes. Hein? Aujourd'hui, vous avez un cinquième de l'humanité qui est rentré dans le cinquième règne, la hiérarchie des âmes. Deux cinquièmes se préparent à y rentrer, commencent à se discipliner aux lois de la vie, voilà. La situation de la Terre, le seul problème, vous le savez, c'est que sur le cinquième qui fait partie, quand ils reviennent au champ terrestre, 4 cinquièmes du cinquième retombent dans la dépendance au matériel. Et comme ils sont très développés en capacité intellectuelle et personnalité, eh bien vous voyez ce que peut donner cet excès dans la vie terrestre. On en a eu récemment un bel exemple. Avec les capacités que j'ai, accumulé des biens, des richesses, je sais faire. Et en fait, ils jouent dans le camp adverse. Au lieu de pratiquer de justes relations, ils jouent dans le camp adverse. Alors la partie évoluée de l'humanité, pour une grande majorité, va avoir un karma lourd à épurer.
Donc allez. Le cinquième, il était entré.
Ils sont entrés.
Le cinquième qui revient.
Actuellement, un cinquième de l'humanité est rentré dans le cinquième règne. Oui. Peu importe la race, la religion, la couleur. Ce sont des êtres qui commencent à se libérer de leur dépendance. Mais quand ils reviennent, hein, quand ils redescendent, ils sont donc arrivés à un certain stade. Mais ils tombent dans l'épreuve de la matérialité de la Terre et au lieu de ne pas tomber dedans, eh bien, ils disent « Ah, accumuler des biens, des richesses voilà. ». Et voilà. Alors le problème, c'est qu'ils jouent dans le camp inverse, là. C'est grave.
Alors, ils ne se rappellent pas de leur évolution.
Mais l'homme fut jeté dans les ténèbres.
Il y a un recul.
La liberté fait qu'on peut chuter dans une vie ou plusieurs. quand on est accepté dans le cinquième règne, c'est au risque et péril de la hiérarchie. C'est pour ça que vous avez l'appellation un peu bizarre à l'entendement, les frères noirs. Bien, c'est des êtres qui furent initiés en son temps au mystère de la vie, comme peut-être vous l'appréhendez, et qui n'ont pas eu la sagesse en son temps d'accepter les épreuves libératrices, donc le karma. Hein, pour entrer à la maison du Père, il faut solder les comptes. Hein, le fameux l'enfant prodigue, c'est l'être humain. Il dit, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que je sois dans cette situation. Hein, l'enfant prodigue. Ah, il dit oui, ça y est, j'ai compris. Il y a des lois de la vie qu'il faut que je respecte. C'est-à-dire, je dois pratiquer de justes relations. Oui, mais il faut que je solde les comptes. C'est la fameuse phrase, si vous voulez, du Christ qui dit ce que Dieu aime, il les châtie. Les phrases de Maitreya il y a 2000 ans, si vous voulez, sont au troisième degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut entrer à la maison du Père doit solder les erreurs, les faiblesses de son passé antérieur et montrer qu'il est maître. Et donc les guides vont lui mettre les épreuves libératrices des domaines où il a été faible en son temps. Au troisième degré, ce que Dieu aime, il les châtie. La phrase est traduite comme ça, mais ça voulait dire en fait ce que Dieu aime, il leur demande de solder les comptes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mal, vous le savez, c'est un bien dépassé dans lequel on retombe. Bon, ben, vous avez 4 cinquièmes du cinquième règne qui, pour l'instant, retombent dedans. Voilà le schéma.
Partie du cinquième qui ne redescend pas ou tout le monde revient ?
Là, c'est une autre question, à savoir que quand un être sort du règne humain, s'apprête à poursuivre une évolution cosmique. La vie ne s'arrête pas. Simplement, compte tenu des difficultés inhérentes à la Terre et aussi insignifiantes qu'elles soient, elle a un rôle cosmique assez particulier. Ce sera évoqué en son temps. Eh bien, chaque fois qu'un être quitte le règne humain, depuis 2000 ans, Maitreya, le Christ, lui demande de ne pas quitter et de renforcer la présence lumière pour la Terre. Donc il tourne symboliquement le dos à la maison du Père.
À la demande du Père.
À la demande de Maitreya. Il ne s'en va pas dans quelques confins cosmiques.